Canale Inter. Le canal francophone qui décrypte pour vous et avec vous tout l'univers de l'Inter Milan. Actualité, histoire, grands entretiens. Au micro, des podcasts et live 100% Nerazzurri, Cédric Canale et Giuliano De Pasquale.
Ciao à tutti, bienvenue dans ce nouvel épisode de Mercato. Vous l'avez entendu dans le générique, on est deux, je suis Cédric Canale et je suis accompagné de Giuliano De Pasquale. Salut Giu.
Salut Cédric. Aujourd'hui on va parler à deux parce que c'est un sujet un peu plus polémique. Hein. L'histoire de Lukaku, on va en discuter. Voilà. Je te laisse un peu présenter le programme de cet épisode Mercato.
Parce que le week-end a été assez riche pour les supporters de l'Inter, a été surtout riche au point de vue des émotions. Romelu Lukaku, qui finalement ne viendra pas à l'Inter, à moins que, Giuliano, on en parlera tous les deux, ce sera notre deuxième débat. On va commencer par l'actu chaude. Dimanche soir, Di Marzio a lancé une bombe. Personne ne l'a vu venir, même si de temps en temps on en rigolait en disant « il est en fin de contrat, c'est un piston ». C'est un coup à la Marotta, mais personne ne pensait que ça allait se réaliser. Et bien voilà, Cuadrado va signer à l'Inter, sauf retournement de situation. Il est attendu ce mardi 18 juillet pour passer les visites médicales et signer son contrat. Nous, on enregistre en ce lundi 17 juillet, donc si jamais ça saute entre-temps, on verra bien. Mais bon, a priori, il n'y a pas de réseau. Il aura accepté un contrat d'un an, salaire aux alentours de 2 millions et demi net, plus ou moins. Ça va faire 4 millions et demi brut. Économiquement, c'est plutôt une bonne affaire. Mais voilà, Cuadrado, c'est surtout toutes ces années à la Juve, toutes ces simulations, les plongeons. Encore lors de la demi-finale de Coupe d'Italie, on en reparlera pour Lukaku. C'est lui qui, en premier, on va dire, a allumé les mèches pour cette fin de match particulièrement houleuse, sur laquelle d'ailleurs il a pris un carton rouge comme Handanovic, et pour laquelle il sera suspendu en Coupe d'Italie avec l'Inter. S'il signe bien l'Inter. Donc voilà, Cuadrado, Giuliano.
Bah, Cuadrado, c'est une surprise pour tout le monde. C'est un truc de fou. C'est... On parle quand même d'un des pires joueurs niveau personnalité du championnat. Je veux dire, avec Théo, c'est vraiment le joueur que je déteste le plus. Désolé, mais c'est une merde, ce mec. Il nous a gâché des derbies avec la Juve. Je dis pas au niveau de ses goals, mais sur... sur son comportement. Il a créé la bagarre en Coupe d'Italie en avril passé avec Handanovic. C'est lui d'ailleurs qui a fait tout un cinéma avec Lukaku parce qu'il a été dire à l'arbitre que Lukaku avait chambré les supporters de la Juve, ce qui a valu le deuxième carton jaune à Lukaku. Enfin voilà, c'était un bordel incroyable. Donc vraiment, c'est l'ennemi juré de l'Inter, je comprends pas comment on a pu aller le chercher. Je suis vraiment sur le cul, quoi. Je le vois vraiment pas avec le maillot de l'Inter. Et pourtant, c'est le coup typique de Marotta d'aller chercher un vieux sans contrat qui a l'expérience du championnat. Et en plus, qui, faut le dire, si c'était pas Cuadrado, il se marie très bien dans le 3-5-2 d'Inzaghi.
On lit ça depuis ce matin, alors après, c'est toujours pareil. On prête souvent pas mal de propos et de choses, donc ce sera la même chose pour Lukaku. D'ailleurs, il faudra parfois prendre un peu de distance avec ce qu'on peut lire. A priori, ce serait une demande d'Inzaghi. Et c'est vrai que si on met de côté la partie de l'homme, et je te rejoins sur tout ce que tu as dit, mais c'est vrai que le joueur en lui-même, sachant que l'Inter, on le sait, veut mettre a priori plutôt l'argent cet été sur un attaquant, là aussi on y reviendra, trouver un piston droit qui va te coûter sur l'année, tout compris entre le salaire brut et les primes, 5 millions d'euros. C'est un expert du poste, c'est un joueur qui sait dribbler, et ça, l'Inter manque énormément, c'est un joueur qui sait centrer, et les deux qualités que je viens de dire, Dumfries, je ne les ai pas. Donc, en imaginant un binôme à droite, Dumfries et Cuadrado, c'est particulièrement complémentaire, que je comprends qu'Inzaghi soit d'accord ou ait demandé Cuadrado ou un joueur de ce style. Après, voilà, il y a l'homme, ça, il n'y a pas de problème. Enfin, il y a problème, mais bon, je pense qu'on se rejoint tous là-dessus. Autre point, l'agent de Cuadrado, c'est Lucci, agent de Dzeko, agent de Correa. Il a ses entrées à l'Inter. Et on peut peut-être aussi voir le lien avec le fait que l'affaire Correa se débloque. Peut-être que l'agent là-dessus a aussi pesé. Ils prennent commission d'un côté, de l'autre. Enfin bref, on sait qu'il y a aussi des jeux d'agents comme cela. Voilà pour Cuadrado, en tout cas, qui devrait être le nouveau piston droit d'Inzaghi et de l'Inter. On va passer à celui qui ne sera pas finalement l'attaquant de l'Inter. Romelu Lukaku, depuis des semaines, ça semblait écrit. Il n'y avait que l'Inter pour lui. Il était même prêt à baisser son salaire encore 2 millions d'euros pour venir. Et puis, au moment où l'Inter aurait finalement trouvé un accord avec Chelsea, 35 millions d'euros plus 5 millions de bonus, eh bien, Romelu Lukaku et son entourage ont disparu pendant plusieurs jours. Impossible de les contacter. L'Inter a découvert, mais bon, on le savait déjà, puisque le Corriere dello Sport en parlait, eh bien, la Juve était aussi intéressée et se rapprochait aussi bien de Chelsea que de Lukaku. C'est son avocat, Le Dur, avocat belge, qui est un peu derrière tout ça. Et donc, l'Inter s'est énervé, on va dire. Il paraît que Ozilio, en 30 secondes, au téléphone, de nuit, comme ça, l'a envoyé chier. Une rupture sèche, comme ça. Qu'est-ce que tu en penses, Giuliano, toi? Est-ce que pour toi, c'est vraiment fini? Est-ce que surtout, tu comprends tout ce qui s'est passé? Est-ce que tu crois cette version-là de Lukaku qui a disparu, de l'Inter qui a finalement trouvé l'accord avec Chelsea pour tout abandonner comme ça, en une nuit?
C'est totalement incompréhensible. Lukaku, on peut en penser ce qu'on veut depuis qu'il a fait son coup pour partir à Chelsea, où voilà, il disait déjà que l'Inter c'était sa maison, qu'il partirait pas. Il est parti à Chelsea. Ça a fait mal, la manière n'était pas là, mais ça peut se comprendre parce que c'était son club de cœur, parce que voilà, il avait une seconde occasion de prouver qu'il pouvait être à la hauteur de ce challenge. Ici, ça n'a vraiment aucun sens. Ça n'a vraiment aucun sens. Il avait l'accord avec l'Inter. L'Inter faisait tout pour le récupérer. Il y avait finalement l'accord. Je veux dire, pourquoi? Ça n'a vraiment aucun sens de discuter avec la Juve. La Juve, qui, rappelons-le, ne joue pas la Ligue des Champions, est autant dans la merde financièrement que l'Inter. Donc, ils sont pas prêts de reconstruire une équipe compétitive de sitôt. Allegri, tactiquement, il a posé question toute la saison. Voilà, je sais pas, à l'Inter, il connaît tout le monde, il connaît le système de jeu, il est à l'aise, les supporters l'adorent. À la Juve, ils lui ont craché dessus en Coupe d'Italie. Je comprends pas, ça n'a vraiment. C'est le pire move de l'histoire. Pour moi, c'est qu'une hypothèse, parce que de nouveau, on n'en sait rien. Mais c'est un coup de l'avocat. Et j'ai lu apparemment aussi de la maman de Lukaku qui voulait faire pression parce que peut-être que ça n'allait pas assez vite pour eux, les négociations entre Chelsea et l'Inter. Et peut-être ils ont voulu faire un petit coup de pression pour dire allez-y, accélérez. Ben non, on fait pas ça comme ça. L'Inter s'attelle depuis des semaines à chercher un accord avec Chelsea. Voilà, c'était sûr que ça allait finir par tomber. Là, ils sont tous totalement perdants. Ouais, peut-être la mère et l'avocat, c'est les gagnants, parce que si Lukaku il va en Arabie Saoudite, eux ils vont s'en mettre plein les poches. Et lui, l'autre garçon, il sera dégoûté de son côté. Même si on part du principe que son amour pour l'Inter c'est du fake, etc., qu'il nous aime pas vraiment, sportivement et donc personnellement, ça n'a aucun sens de faire ça. Pour sa carrière, ça n'a vraiment aucun sens. Donc je comprends pas. Maintenant, si c'est vrai, voilà, c'est un débile et moi je suis prêt à l'accepter. Est-ce qu'il reste encore un moyen de le voir venir à l'Inter, si vraiment lui, maintenant de son côté, fait tout pour convaincre Ausilio et Marotta que son entourage a déconné et que lui, son idée, c'était juste l'Inter depuis le début. Enfin, voilà, je ne sais pas si c'est réparable, mais c'est une débilité incroyable, c'est du jamais vu, c'est carrément du jamais vu.
Alors, selon moi, ce n'est pas réparable parce qu'il y a le côté humain qui, entre l'Inter et Lukaku, est plus important que dans d'autres scénarios. Il faut rappeler quand même que l'été dernier, la façon dont il est revenu, où pour le coup, là, il avait vraiment mis du sien, Lukaku, pour revenir, mais l'Inter aussi. Zhang, en première personne, avait voulu aussi le retour de Lukaku. C'est le cas de Marotta, d'Inzaghi, avoir préféré Lukaku à Dybala qui était libre. Donc, il y a vraiment ce côté humain aussi, et l'Inter s'est senti très clairement trahi par le comportement de Lukaku. Et là, on voit maintenant, on va en parler dans un instant, mais c'est Balogun, c'est d'autres joueurs qui sont pistés. On commence à parler avec les clubs du côté des dirigeants de l'Inter. Donc, moi, je pense clairement que il y a plus de possibilités. Et je ne crois pas non plus à ce qui sort. Alors, c'est peut-être du côté de l'entourage de Lukaku aussi, comme quoi il aurait été blessé de ne pas être titulaire lors de la finale de Ligue des Champions et qu'il en veut. Encore à Inzaghi pour ça, parce qu'il a tout de même joué 35 minutes dans cette finale. Il a eu une occasion de but énorme, et s'il avait marqué, il aurait été le héros du match. On aurait dit magnifique, aussi bien le coaching que Lukaku, qui est un joueur central. Surtout qu'a priori, Le Dur avait commencé à parler avec la Juve avant la finale. Je pense pas que Inzaghi ait pesé dans la décision non plus de Lukaku, parce que l'Inter lui proposait aussi un contrat de 3-4 ans Et on ne sait pas où sera Inzaghi dans 6 mois, dans un an. Donc, Inzaghi, encore lors de la présentation de la saison, avait répété à quel point il voulait Lukaku, il était central dans le projet. Donc, voilà, moi, je pense un peu tout ça, c'est vraiment... Il s'est comporté comme un narcissique, en quelque sorte. Et je trouve qu'il le fait régulièrement, parce qu'il a fait avec Chelsea, il a fait avec Manchester United. Je crois qu'il a même fait avec Anderlecht, lorsqu'il est parti, où il avait refusé de s'entraîner. Enfin, il avait été au bras de fer aussi, comme quelqu'un qui pense qu'à lui, qui vit que sur les émotions du moment, et sûrement aussi mal influencé par son entourage, comme tu l'as dit. Mais il va avoir 31 ans, il est père de famille, donc moi j'ai du mal à l'excuser. Comme on avait tous critiqué Pastorello il y a 2 ans, lors du transfert à Chelsea, là maintenant on critique le dur. Je trouve que c'est un peu facile de toujours s'en prendre aux agents ou avocats de Lukaku. C'est un adulte et il a fait ses choix. Il a peut-être voulu jouer en double jeu et il est perdant, et pour moi c'est fini. Et c'est sûr, ça va être compliqué de trouver un autre attaquant à 35-40 millions d'euros, mais je pense que l'Inter a plutôt raison d'agir de la sorte. Maintenant, la question de Giuliano, qui pour le remplacer?
Bah pour le moment, donc les médias, les journalistes Mercato parlent de plusieurs noms. On a Folarin Balogun, donc le jeune joueur d'Arsenal qui avait été prêté à Reims cette année. Il a mis 21 buts en 37 matchs. C'est un jeune joueur donc, qui est né en 2001. Donc, c'est un joueur intéressant à aller voir. Maintenant, voilà, Arsenal, un club anglais qui forcément met le montant à l'anglaise. Donc là, ça demande 40-50 millions pour aller chercher. Ça me paraît très élevé. On a d'autres noms qui ont été cités, comme Elie Wailly de Montpellier. Donc un jeune Français né en 2003. On a Mehdi Taremi de Porto, né en 92. On a Beto, qu'on connaît, de l'Udinese, qui lui est un joueur de 98. Et alors, on a le vieux briscard du lot, c'est Morata, qui pour le moment est à l'Atlético. Il y a le Milan, la Juve, la Roma qui sont dessus. Apparemment, la Roma aurait plus d'avance. Voilà, donc ça, c'est un peu le joueur déjà confirmé. Ça m'emballerait moins, je t'avoue. J'ai une petite préférence pour Balogun. Mais il paraît que Wai est vraiment très très fort et ce serait vraiment pas mal de tenter le pari Wai.
Je suis assez d'accord avec toi, Wai m'intrigue aussi. Après, et c'est aussi le cas pour Balogun, c'est quand même des joueurs très jeunes, c'est vrai qu'ils pour le moment n'ont rien montré à haut niveau. Ils n'ont montré, entre guillemets, qu'en Ligue 1, dans des clubs de milieu de tableau de Ligue 1. On ne parle pas de joueurs qui ont joué à Marseille ou à Lyon et qui donc ont déjà un peu la pression. Donc il y a ça, et mettre 50, 40 ou 50 millions d'euros, Wai, ça peut être un peu moins, ça peut être 30 millions, mais mettre une somme comme ça sur un joueur pour le moment qui n'a pas prouvé, on le sait malheureusement désormais. Dans le football, il faut oser aussi faire des coups. Parfois, ça paye. Lautaro, ça avait payé pour l'Inter. Gabigol, ça n'avait pas payé pour l'Inter pour prendre des attaquants des dernières années sur des jeunes. Mais voilà, en tout cas, c'est intéressant de voir l'Inter, en tout cas, qui a envie d'investir et donc de prendre un risque, en quelque sorte. Après, Morata, c'est le coup sûr parce que il connaît la Serie A. C'est un joueur qui, sûrement, dans un 3-5-2, peut aussi être très utile. Parce qu'il a ce côté un peu régista offensif qu'avait Dzeko, ce côté de contrôler, décaler. Il sait aussi attaquer la profondeur, donc c'est un joueur qui serait sûrement utile. Peut-être que Kinzaghi aurait plus une préférence du coup sur ce type de joueur ou sur Taremi. Donc toi, tu disais plutôt Wai, toi, ton choix?
Bah, je le connais pas bien. Il faudrait que j'analyse un peu plus son profil. Mais à l'heure actuelle, moi, je suis plus Balogun parce que je le connais un peu plus de Football Manager, ce genre de choses. Oui, j'ai vu quelques vidéos aujourd'hui et c'est vrai que ça a l'air sexy. Donc à voir quoi. Je pourrais changer d'avis. J'ai pas un
Sache.
choix fermé.
Ce qui est surprenant, c'est que le nom de Scamacca ne réapparaît pas, puisqu'il y a un an, on le donnait, enfin un an et demi maintenant, la presse italienne le donnait comme très très proche de l'Inter. Finalement, il n'y a pas eu de transfert, puisque l'Inter avait choisi Lukaku, mais lui a été à West Ham. Il a plutôt un échec là-bas. Il y a la Roma qui est fort sur lui aussi. La Roma fera soit Morata, soit Scamacca. Peut-être que l'Inter fera soit Morata, soit Scamacca, on verra. Mais moi, Scamacca, ça me plairait bien, aussi parce qu'il est italien, parce qu'il a ce côté physique. Même s'il doit encore s'améliorer là-dessus, parce qu'il est grand, il doit encore prendre un peu de muscle, mais il a ce côté physique qui, je pense, serait important aussi pour prendre la case laissée vide par Lukaku. Et puis, il y a le côté aussi, il retrouverait son ami Fratesi pour l'intégration des deux, ce serait pas mal. continue à avoir une Inter assez italienne, ce qui est plutôt pas mal aussi d'avoir une sorte de colonne vertébrale qui pourrait devenir celle de la nationale. Donc moi, la candidature Scamacca ne me déplairait pas.
Alors, on va passer au reste de l'actu de l'Inter pour cette dernière semaine. On avait parlé de la piste Roberto Pereira pour le milieu. Ça a l'air de se refroidir parce qu'apparemment, il aurait trouvé un accord avec Beşiktaş. On avait Samardzic qui maintenant serait plutôt proche du Milan que de l'Inter. Bon, Frattesi et Thuram étaient aussi plutôt proches que le Milan que de l'Inter à un moment. Donc, on a parlé de Cuadrado. D'ailleurs, la Curva Nord prévoyait apparemment une manifestation ce lundi devant le siège de l'Inter pour protester. Il n'en a été rien du matin. On va voir, la journée n'est pas terminée, on verra. Et alors, aussi, une rumeur un peu plus qui pourra un peu plus égayer votre journée, c'est que Correa ouvrirait la porte à un transfert en Arabie Saoudite. Donc, ce qui laisserait une place pour un autre attaquant en plus de celui qui doit remplacer Lukaku. Donc, à voir si on peut récupérer de l'argent de Correa, mais vu comme on a bradé Brozovic et comme on veut se débarrasser de Correa, pas sûr qu'on en tire grand-chose.
Oui, ce serait peut-être, je ne sais pas, du 15 millions d'euros, histoire de ne pas faire de moins-value, mais se libérer de Correa au bilan et au niveau du salaire. Et ça voudrait donc dire prendre un autre attaquant. Puis aussi du côté du piston gauche, puisqu'on parlait de Cuadrado à droite, à gauche, Gossens aussi, qui est toujours potentiellement partant pour l'Allemagne. Donc on verra. Et puis le gardien, bien sûr, Onana, donc c'est fait maintenant. Ce lundi, il a fait son dernier entraînement. Il devrait s'envoler pour l'Angleterre. Et là aussi, il faudra donc deux gardiens, puisque Handanovic a été salué. Donc, ça fait beaucoup, beaucoup de cases vides dans le vestiaire de l'Inter. Il y a encore 8-9 joueurs seulement à prendre si on intègre les possibles départs de Correa et Gossens. Ça fait quand même beaucoup, ça fait pas trop, selon toi, de changer autant une équipe qui a été finaliste de Ligue des Champions et qui reste sur plusieurs coupes gagnées.
Oui, après, je pense que c'était quand même quelque chose qui était prévu sans prendre en compte qu'on allait aller en finale de Ligue des Champions. Donc, c'est quelque chose qui, ouais, c'est ça qui est quand même assez naturel dans ce rafraîchissement de l'effectif. Il n'y a rien de vraiment forcé, à part, Lukaku, c'était pas prévu, Onana, c'était pas forcément prévu, mais on pouvait s'y attendre. Donc, oui, il y a beaucoup de changements, mais, pour moi, on a toujours les piliers qui sont là. On a quand même gardé Acerbi, qui était le pilier de la défense cette saison. On garde Barella, Çalhanoğlu, parce que Brozovic a été quand même assez absent, même si ça a été lui le pilier pendant tout un moment. Et surtout, on garde Lautaro, qui est un peu notre dernière valeur sûre en attendant de voir ce que Barella pourrait montrer dans le futur, quoi.
Et puisque tu parles d'eux, ce sera officiel sûrement, peut-être même déjà aujourd'hui, puisque Inzaghi attendait que tout le groupe revienne et tous les internationaux ont repris leur entraînement, ont repris l'entraînement ce lundi 17 juillet. D'ailleurs, Frattesi et Thuram ont fait leur premier jour à Piano Gentile. Ça devrait être Lautaro capitaine et Barella vice-capitaine pour le nouvel ordre. Et puisque tu as dit Onana, Thuram, ensemble, on va mettre un petit peu à bas une rumeur qu'on lit trop souvent et qu'on essaie d'expliquer, notamment sur Twitter, sur le fait que l'Inter vendait Onana pour acheter Lukaku. Non, l'Inter vend Onana pour avoir une plus-value de 50 millions d'euros, qui est cruciale dans le bilan 2023-2024 pour rester dans les clous du fair play financier et en tout cas de l'accord signé avec l'UEFA, puisque l'Inter, comme Milan, comme la Roma, comme le PSG, comme Monaco et comme Marseille, est sous contrôle de l'UEFA sur le fair play financier jusqu'en 2026. Tous ces clubs doivent progressivement rentrer dans les coups et donc vendre Onana est très important pour faire cette plus-value de 50 millions d'euros, en plus de celle de Brozovic qui t'apporte quasiment 20 millions d'euros de plus-value. Donc voilà, les ventes sont pour ça. Et ensuite, l'Inter décide d'investir, que ce soit sur Lukaku, que ce soit sur Balogun, que ce soit sur Samardzic. C'est aussi pour ça qu'un Cuadrado, encore une fois, a été pris, parce que lui, il coûte peu. Mais voilà, on va dire que les deux opérations n'étaient pas liées. Et la preuve, lorsque ça s'est arrêté avec Lukaku, eh bien, l'Inter n'a pas bloqué le départ d'Onana, bien sûr. Voilà, le transfert a tout de même été validé. Je pense que c'était important de le rappeler une fois de plus, même si peu de gens nous écouteront. On essaie de continuer comme cela. Bon, mais voilà, Giuliano, je pense qu'on a fait le point sur ce petit podcast Mercato.
Ouais, je pense que c'est bon. De toute façon, faut pas être trop long, hein. On essaie de garder un format un peu court. Là, on a dépassé les 10 minutes, mais voilà, on essaie d'être le plus bref possible.
Et puis, ben, on se retrouve du coup la semaine prochaine pour un nouveau point sur ces différents sujets.
Allez, ciao à tous. Ciao, Cédric.
Ciao, ciao, Giu, ciao.
C'était Canal Inter avec Giuliano De Pasquale et Cédric Canale. À retrouver sur toutes les plateformes de podcast et YouTube. Et pour des infos et coulisses depuis Milan, suivez-les sur Twitter. Alla prossima, fratelli!